Chapitres 4 et 5. Le sacrifice pour le péché. Chapitres 4 et 5, versets 1 à 13. Relation du peuple avec Dieu et conscience individuelle. Ayant considéré les offrandes d'agréable odeur, nous arrivons maintenant au sacrifice pour le péché. Ils étaient divisés en deux classes, les sacrifices pour le péché et ceux pour le délit. Différents cas sont envisagés. L'offrande pour le sacrificateur oint, chapitre 4, versets 3 à 12, l'offrande pour toute l'assemblée, chapitre 4, versets 13 à 21, l'offrande pour un individu, à partir du chapitre 4, verset 22. Les deux premiers cas sont très semblables. Le résultat était le même, que ce soit le représentant de l'assemblée ou l'assemblée elle-même qui ait péché. Trois choses étaient alors impliquées. Le sanctuaire de Dieu au milieu de l'assemblée, l'adoration de l'assemblée et la conscience individuelle. Pour cette raison, on faisait trois choses avec le sang. On en faisait aspersion sept fois devant l'Éternel par devant le voile du lieu saint, verset 6. Cela garantissait les relations de l'Éternel avec le peuple et sa demeure au milieu d'eux. Ensuite, le sacrificateur mettait le sang sur les cornes de l'autel de l'encens des drogues odoriférantes qui est dans la tente d'assignation devant l'Éternel. Verset 7. Cela garantissait le culte de l'assemblée. En mettant le sang sur les cornes de l'autel d'or, la vraie base du culte était sauvegardée, de sorte que la flamme de l'encens et sa bonne odeur pouvaient monter continuellement. Enfin, le sacrificateur versait tout le sang du taureau au pied de l'autel de l'Holocauste qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 7. Ici, nous avons ce qui répond pleinement aux exigences de la conscience de chaque individu, car l'autel des reins était le lieu où tous avaient accès. C'était l'endroit où Dieu rencontrait le pécheur. Dans le cas d'un individu, qu'il s'agisse d'un chef ou de quelqu'un du peuple du pays, ce n'était qu'une question de conscience individuelle. C'est pourquoi on ne faisait qu'une chose avec le sang. Il était entièrement répandu au pied de l'autel de l'Holocauste. Versets 25 et 30. Le péché d'un chef ou de quelqu'un du peuple du pays ne pouvait avoir d'influence sur l'autel des parfums, lieu d'adoration du sacrificateur. Il ne pouvait arriver non plus jusqu'au voile du lieu très saint, limite sacrée de l'habitation de Dieu au milieu de son peuple. Nous ne devons jamais soulever une question de péché ou de chute personnelle dans le lieu du culte ou dans l'assemblée. Il faut qu'elle soit réglée là où chacun peut approcher en personne. Beaucoup se trompent à cet égard. Ils viennent dans l'assemblée dans le lieu du culte avec leur conscience souillée et ainsi ils affaiblissent toute l'assemblée et en troublent le culte. On devrait se garder soigneusement de cela. Nous avons besoin d'une grande vigilance, afin que notre conscience puisse être toujours dans la lumière. Et si nous avons manqué, ayons d'abord affaire avec Dieu, en secret, quant à notre chute, afin que le vrai culte et la vraie position de l'assemblée puissent toujours être conservés. Il y a une différence entre l'offrande pour un chef et celle pour quelqu'un du peuple du pays. Dans la première, c'était un mâle sans défaut. Dans la seconde, une femelle sans défaut. Le péché d'un des chefs devait nécessairement exercer une plus grande influence que celui d'une personne du commun. C'est pourquoi il fallait une plus puissante application de la valeur du sang. Au chapitre 5, versets 7 à 13, nous voyons ce que devait offrir celui dont les moyens ne pouvaient atteindre une chèvre ou un agneau. Il apportera deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, ou même la dixième partie d'un épha de fleurs de farine. Quel contraste entre le bouc d'un des principaux et la poignée de farine d'un pauvre homme. Et cependant, dans un cas comme dans l'autre, il est dit « il lui sera pardonné ». Le péché par erreur ou par ignorance. Avant d'examiner les principes des sacrifices pour le péché, je désire attirer l'attention de mes lecteurs sur un point essentiel, indiqué en premier lieu au verset 2 du chapitre 4. Il est contenu dans l'expression « si quelqu'un a péché par erreur ». Ceci évoque pour nous une vérité des plus précieuses, en rapport avec l'expiation opérée par le Seigneur Jésus-Christ. Il y a dans cette expiation infiniment plus que la simple satisfaction des exigences de la conscience. Il y a ce qui a pleinement satisfait à tous les droits de la sainteté, de la justice et de la majesté divine. Si l'expiation de Christ ne s'appliquait qu'aux péchés que l'homme peut discerner et reconnaître, nous nous trouverions bien éloignés du vrai fondement de la paix. Le péché a été expié selon la justice de Dieu. C'est là ce qui donne à l'âme du croyant une paix durable. Une pleine expiation a été faite pour ses péchés par erreur ou par ignorance, aussi bien que pour ses péchés connus. Le sacrifice de Christ pose la base de ses relations et de sa communion avec Dieu, selon l'appréciation divine que Dieu en fait. Sans une intelligence claire de cela, on ne peut saisir l'étendue et la plénitude de l'œuvre de Christ, ni la vraie nature des relations qui s'y rattachent. Dieu savait ce qu'il y avait à faire pour que l'homme puisse être en sa présence sans crainte, et il y a parfaitement pourvu par la croix. Il n'aurait jamais pu y avoir de communion entre Dieu et l'homme si Dieu n'en avait pas fini avec le péché d'une manière qui le satisfasse, lui. Il y a dans les détails de la vie certaines choses qui se manifestent et que la sainteté divine ne saurait tolérer. Il se peut que nous fassions des choses par erreur, mais cela n'en change pas le caractère devant Dieu. Mais ce n'est pas une raison d'avoir des doutes, des appréhensions, des craintes continuelles. À toutes ces choses répond le fait que le péché a été expié, non pas selon notre ignorance, mais selon la sagesse de Dieu. Par conséquent, plus la conscience du croyant gagne en délicatesse sous l'action combinée de la parole et de l'Esprit de Dieu, mieux il comprend tout ce qui convient moralement au sanctuaire, plus il devient sensible à tout ce qui est incompatible avec la présence divine, mieux il saisit la valeur infinie du sacrifice de Christ. Ce sacrifice pour le péché non seulement dépasse les limites de la conscience humaine, mais encore répond à toutes les exigences de la divine sainteté. Notre paix repose sur le fondement d'une conscience parfaitement purifiée, et cette conscience purifiée repose sur la base de la parfaite rémission de tous nos péchés, soit connus, soit ignorés. Sacrifice pour le péché et holocauste. Nous allons maintenant comparer le sacrifice pour le péché avec l'holocauste, ce qui nous présentera deux aspects très différents de Christ. Mais malgré cette différence, c'est un seul et même Christ. C'est pourquoi, dans l'un et l'autre cas, le sacrifice était sans défaut. Cela est facile à comprendre. Sous quelque aspect que nous contemplions le Seigneur Jésus, c'est toujours le même être parfait, pur, saint et sans tache. Il est vrai que dans son immense grâce, il a bien voulu se charger du péché de son peuple, mais même lorsqu'il en était ainsi, il était un Christ parfait et sans tache. Gardons-nous bien de prendre occasion de la profondeur de son humiliation pour ternir sa gloire personnelle. L'excellence intrinsèque et la pureté inaltérable de notre bien-aimé Seigneur apparaissent tout aussi pleinement dans le sacrifice pour le péché que dans l'Holocauste. Cette vérité d'un seul et même Christ, soit dans l'offrande pour l'Holocauste, soit dans le sacrifice pour le péché, se voit non seulement dans le fait que, dans les deux cas, l'offrande était sans défaut, mais aussi dans la loi du sacrifice pour le péché, où nous lisons « Au lieu où l'Holocauste sera égorgé, le sacrifice pour le péché sera égorgé devant l'Éternel, c'est une chose très sainte. » Lévitique 16, verset 18. Dans l'Holocauste, Christ répond aux affections de Dieu. Dans l'offrande pour le péché, il répond aux profonds besoins de l'homme. L'un nous le présente comme celui qui accomplit la volonté de Dieu, l'autre comme celui qui porte le péché de l'homme. Dans le premier, nous apprenons quelle est la valeur du sacrifice. Dans la seconde, quel est le caractère odieux du péché. Quand nous nous sommes occupés de l'Holocauste, nous avons vu que c'était une offrande volontaire. Or, il n'en était nullement ainsi dans le sacrifice pour le péché. Ce type nous présente Christ, non comme celui qui accomplit de plein gré la volonté de Dieu, mais comme celui qui porte cette chose terrible qui est appelée le péché. Et il en endure toutes les effrayantes conséquences, dont la plus terrible, pour lui, était que Dieu lui cachait sa face. Ce contraste explique, ou plutôt harmonise, deux expressions employées par notre Seigneur. À une occasion, il dit « La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ? Et ailleurs, Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. La première de ces expressions confirmait les paroles avec lesquelles il avait commencé sa carrière. Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est Christ s'offrant comme holocauste. La seconde, au contraire, est son exclamation quand il contemple ce qu'il va devenir comme sacrifice pour le péché. Si dans l'holocauste nous voyons la parfaite disposition de cœur avec laquelle Christ s'est offert lui-même pour accomplir la volonté de Dieu, dans le sacrifice pour le péché, nous voyons avec quelle entière soumission il a pris sur lui toutes les conséquences du péché de l'homme. Il prenait plaisir à faire la volonté de Dieu, mais il redoutait de perdre, même pour un moment, la lumière de sa face. Aucune offrande, à elle seule, n'aurait pu le représenter sous ses deux faces. Il nous fallait un type qui nous le montre comme celui qui prenait son plaisir à faire la volonté de Dieu, et il nous en fallait un qui nous le montre comme celui dont la sainte nature reculait devant les conséquences du péché qui lui était imputé. Mais l'on dira peut-être, n'était-ce pas la volonté de Dieu que Christ s'offre lui-même en sacrifice pour le péché ? Et s'il en est ainsi, comment pouvait-il avoir la moindre répugnance à accomplir cette volonté ? Assurément, c'était selon le propos arrêté de Dieu que Christ souffre, et de plus, c'était la joie de Christ de faire la volonté de Dieu. Mais si nous l'entendons s'écrier « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi » Matthieu 26, verset 39. C'est parce que la croix, avec son ignominie, sa malédiction et sa privation de la lumière de la face de Dieu, passait devant son esprit. Il ne pouvait pas envisager cela sans adresser à Dieu cette supplication. Mais à peine a-t-il prononcé ces paroles que sa parfaite soumission se montre par ces mots « Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » L'amertume de cette coupe était telle qu'elle put faire sortir d'un cœur parfaitement soumis les mots « Qu'elle passe loin de moi. » L'imposition des mains. L'acte de poser sa main sur la tête de l'animal offert était commun à l'holocauste et au sacrifice pour le péché. Chapitre 1, verset 4 et 4, verset 4. Dans le premier cas, il identifiait la personne qui offrait le sacrifice avec une offrande sans tache. Dans le second, cet acte impliquait le déplacement du péché de la personne jusque sur la victime. Christ a été fait péché pour nous afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens 5, verset 21. Il a pris notre position avec toutes ses conséquences afin que nous puissions avoir sa position avec toutes ses conséquences. Il a été traité comme le péché sur la croix afin que nous puissions être traités comme la justice en présence de l'infinie sainteté de Dieu. Il a été rejeté de la présence de Dieu, ayant pris nos péchés sur lui, afin que nous puissions être reçus dans la maison de Dieu, étant revêtus de sa justice parfaite. Il a eu à endurer que Dieu lui cache sa face, afin que nous puissions nous réjouir à la clarté de cette face. Il a dû passer par 3 heures de ténèbres, afin que nous puissions entrer dans la lumière éternelle. Il a été abandonné de Dieu pour un temps, afin que nous puissions jouir de sa présence à toujours. Tout ce qui nous était dû en tant que pécheurs perdus a été mis sur lui, afin que tout ce qui lui est dû pour avoir accompli l'œuvre de la rédemption puisse devenir notre partage. Il s'est identifié avec nous dans la réalité de la mort et du jugement, afin que nous puissions être identifiés avec lui dans la réalité de la vie et de la justice. Telle est la vérité merveilleuse illustrée par l'acte cérémoniel de l'imposition des mains. Lorsque l'adorateur avait posé sa main sur la tête de la victime pour l'holocauste, il ne s'agissait plus de ce qu'il était ou de ce qu'il méritait. Il s'agissait uniquement de ce qu'était l'offrande selon l'appréciation de l'Éternel. Si la victime était sans défaut, la personne qui l'offrait l'était aussi. Si la victime était acceptée, celui qui l'offrait l'était aussi. Ils étaient identifiés. L'imposition de la main les faisait être un aux yeux de Dieu. Il voyait l'adorateur à travers l'offrande. Mais dans le sacrifice pour le péché, quand celui qui l'offrait avait posé la main sur la tête de la victime, celle-ci était traitée selon ce que méritait celui qui l'offrait. Ils étaient identifiés. De nouveau, l'imposition de la main les constituait un aux yeux de Dieu. Dans le sacrifice pour le péché, il s'agissait du péché de celui qui l'offrait. Dans l'Holocauste, il s'agissait de son acceptation. Dans les deux cas, l'acte exprimait l'identification. Cependant, les conséquences en étaient aussi différentes que possible. Le juste traité comme l'injuste, l'injuste accepté dans le juste. Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amenât à Dieu. 1 Pierre 3, verset 18. Nos péchés ont amené Christ à la croix, mais lui nous amène à Dieu. Et s'il nous amène à Dieu, c'est dans sa propre acceptation en tant que ressuscité d'entre les morts, ayant ôté nos péchés selon la perfection de son œuvre. Il a emporté nos péchés loin du sanctuaire de Dieu, afin de pouvoir nous y introduire en toute assurance de cœur. Différence entre l'Holocauste et le sacrifice pour le péché. Au premier chapitre de ce volume, nous avons signalé le fait qu'il est question des fils d'Aaron dans l'Holocauste, mais non dans le sacrifice pour le péché. Comme sacrificateurs, ils avaient le privilège de se tenir autour de l'autel et de contempler la flamme d'un sacrifice agréable à l'Éternel et s'élevant vers lui. Mais dans le sacrifice pour le péché, il s'agissait tout d'abord du jugement solennel du péché et non du culte des sacrificateurs. C'est pourquoi les fils d'Aaron ne paraissent pas. C'est comme pécheurs convaincus que nous avons affaire avec Christ, antitype du sacrifice pour le péché. C'est comme des sacrificateurs rendant culte, revêtus des vêtements du salut, que nous contemplons Christ, antitype de l'Holocauste. En outre, mes lecteurs remarqueront que la victime pour l'Holocauste était écorchée, tandis que celle pour le péché ne l'était point. La victime pour l'Holocauste était coupée en morceaux, mais non celle pour le péché. L'intérieur et les jambes de l'Holocauste étaient lavés avec de l'eau, ce qui était entièrement omis dans le sacrifice pour le péché. Enfin, l'Holocauste était brûlé sur l'autel, le sacrifice pour le péché était brûlé hors du camp. Nous parlons ici de l'offrande faite pour le sacrificateur oint ou pour toute l'assemblée d'Israël. Ces différences proviennent simplement du caractère distinctif des offrandes. Il nous faut chercher à en comprendre la vraie portée. Nous devrions nous arrêter sur les moindres détails de l'Écriture, soit pour adorer la sagesse de Dieu qui s'y manifeste, soit pour confesser notre ignorance à leur égard. Si l'Esprit, en nous donnant la loi du sacrifice pour le péché, a omis les divers rites mentionnés ci-dessus, rites qui occupent une place importante dans la loi pour l'Holocauste, il doit assurément y avoir à cela une bonne raison. Dans le sacrifice pour le péché, Christ est vu prenant judiciairement la place qui moralement nous appartenait. Pour cette raison, nous ne pouvions nous attendre à y trouver cette expression intense de ce qu'il était, dans tous les motifs secrets qui le faisaient agir, symbolisée dans l'acte typique d'écorcher. Il ne pouvait y avoir non plus cette ample exposition de ce qu'il était, jusque dans les moindres traits de son caractère, qui se voit dans l'acte de couper en morceaux. Et enfin, il ne pouvait y avoir cette manifestation de ce qu'il était, en pratique et intrinsèquement, représentée par l'acte significatif de laver avec de l'eau l'intérieur et les jambes. Toutes ces choses appartiennent au type de l'Holocauste, où nous voyons le Seigneur Jésus s'offrant lui-même à Dieu, sans qu'il soit nullement question de péché imputé, de colère ou de jugement. Dans le sacrifice pour le péché, au contraire, au lieu d'avoir comme idée prééminente ce que Christ est, nous avons ce qu'est le péché. Au lieu de la valeur de Jésus, nous avons le caractère odieux du péché. Dans l'Holocauste, puisque c'est Christ lui-même qui s'offre à Dieu et qui est accepté, nous avons tout ce qui pouvait être fait pour manifester ce qu'il était à tous égards. Dans le sacrifice pour le péché, comme il s'agit du péché jugé par Dieu, nous trouvons précisément tout le contraire. Cela découle tout naturellement du caractère distinctif du type. La graisse offerte sur l'autel. Cependant, quoique le but principal du sacrifice pour le péché soit de préfigurer ce que Christ a été fait pour nous, et non pas ce qu'il était en lui-même, il y a néanmoins dans ce type une chose qui exprime de la manière la plus expresse combien Christ était personnellement agréable à Dieu. Et toute la graisse du taureau du sacrifice pour le péché, il la lèvera, la graisse qui couvre l'intérieur et toute la graisse qui est sur l'intérieur, et les deux rognons et la graisse qui est dessus, qui est sur les reins, et le réseau qui est sur le foie, qu'on ôtera jusque sur les rognons, comme on les lève du bœuf du sacrifice de prospérité, et le sacrificateur les fera fumer sur l'autel de l'Holocauste. Chapitre 4, versets 8 à 10. Ainsi, l'excellence intrinsèque de Christ n'est pas omise, même dans le sacrifice pour le péché. La graisse brûlée sur l'autel est l'expression de la divine appréciation de la valeur de Christ, quelle que soit la position que, dans sa parfaite grâce, il avait prise pour nous ou à notre place. Il a été fait péché pour nous, et le sacrifice pour le péché est le type qui le représente sous cet aspect. Or, comme c'était le Seigneur Jésus-Christ, l'élu de Dieu, son Saint-Fils, parfaitement pur, qui était fait péché, la graisse du sacrifice pour le péché devait être brûlée sur l'autel comme matière tout à fait convenable à ce feu qui figurait la sainteté divine. Ainsi, les gloires de la personne de Christ brillent même au milieu des ténèbres entourant ce bois maudit, auquel il consentit à être cloué, étant devenu malédiction pour nous. Le caractère odieux du péché auquel il associa sa personne sur la croix ne pouvait pas empêcher l'agréable odeur de ses perfections de monter jusqu'au trône de Dieu. C'est ainsi que nous est dévoilé ce profond mystère de la face de Dieu cachée à Christ fait péché et du cœur de Dieu réjoui par ce que Christ était en lui-même. C'est là ce qui donne une beauté toute particulière au sacrifice pour le péché. Les rayons de la gloire personnelle de Christ resplendissant au milieu des ténèbres du calvaire, les délices de Dieu en celui duquel il devait cacher sa face, voilà ce qui est exprimé par le fait que la graisse du sacrifice pour le péché était brûlée sur l'autel. Le corps de la victime brûlé hors du camp. Après avoir indiqué ce qu'on faisait du sang et de la graisse de la victime, nous avons maintenant à considérer ce qu'on faisait de sa chair. La peau du taureau et toute sa chair, tout le taureau, il l'emportera hors du camp, dans un lieu net, là où on verse les cendres, et il le brûlera sur du bois au feu, il sera brûlé au lieu où on verse les cendres. Versets 11 et 12. Nous avons dans cet acte le trait essentiel du sacrifice pour le péché, lorsqu'il s'agissait du péché du sacrificateur oint ou de toute l'assemblée d'Israël. Verset 21. Sa chair n'était pas brûlée sur l'autel, comme dans l'Holocauste, ni mangée, comme dans le sacrifice de prospérité. Elle était entièrement brûlée hors du camp. Nul sacrifice pour le péché dont le sang sera porté dans la tente d'assignation pour faire propitiation dans le lieu saint ne sera mangé. Il sera brûlé au feu. Chapitre 6, verset 23. Car les corps des animaux dont le sang est porté, pour le péché, dans les lieux saints, par le souverain sacrificateur, sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi aussi Jésus, afin qu'il sanctifiât le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Hébreux 13, versets 11 et 12. Notons que lorsqu'il s'agissait du péché d'un chef ou de quelqu'un du peuple, l'ordonnance était différente. Le sang n'était pas porté dans le lieu saint et la chair du sacrifice était mangée par les sacrificateurs. Chapitre 6, versets 19 et 22, Nombre 18, versets 9 et 10. La valeur du sang de Christ. Avant que nous puissions rendre culte dans la paix de la conscience et en liberté de cœur, il faut que nous sachions, par l'autorité de la parole et par la puissance de l'Esprit, que la question tout entière du péché a été à jamais réglée par le sang de Christ. Ce sang ayant été répandu en perfection devant Dieu, toutes ses exigences et tous nos besoins en tant que pécheurs perdus ont été pour toujours satisfaits. C'est ce qui nous donne une parfaite paix, et dans la jouissance de cette paix, nous rendons culte à Dieu. Quand un Israélite avait offert son sacrifice pour le péché, sa conscience pouvait être en repos, pour autant que sa foi saisisse la valeur du sacrifice. Il est vrai que ce n'était qu'une paix temporaire, puisqu'elle était le fruit d'un sacrifice temporaire. Mais il est clair que, quel que soit le genre de paix que le sacrifice était destiné à procurer, celui qui l'offrait pouvait en jouir. Par conséquent, donc, notre sacrifice étant divin et éternel, notre paix l'est également. Tel qu'est le sacrifice, telle est la paix dont il est le fondement. Un juif n'avait jamais une conscience purifiée pour toujours, parce qu'il n'avait pas un sacrifice éternellement efficace. Il pouvait, en un certain sens, avoir sa conscience purifiée pour un jour, un mois ou une année, mais il ne pouvait pas avoir sa conscience purifiée pour toujours. Mais Christ étant venu, souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait de main, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de boucs et de taureaux et la cendre d'une génisse avec laquelle on fait aspersion sur ceux qui sont souillés sanctifient pour la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9, versets 11 à 14. Le sang des taureaux et des boucs procurait une rédemption temporaire. Le sang de Christ procure une rédemption éternelle. Le premier purifie extérieurement, le second intérieurement. Celui-là purifiait la chair pour un temps, celui-ci la conscience pour toujours. Toute la question dépend non du caractère ou de la condition de celui qui l'offrait, mais de la valeur du sacrifice. Il ne s'agit pas de savoir si un chrétien vaut mieux qu'un juif, mais si le sang de Christ vaut mieux que le sang d'un taureau. Le Fils de Dieu communique toute la valeur de sa personne au sacrifice qu'il a offert, et si le sang d'un taureau purifiait la chair pour un temps, combien plus le sang du Fils de Dieu purifiera-t-il pour toujours la conscience ? Celui-là ôtait quelques péchés, celui-ci les ôte tous. Maintenant, d'où venait que l'âme d'un juif était en paix pour un temps, après qu'il avait offert son sacrifice pour le péché ? Comment savait-il que le péché spécial pour lequel il avait présenté son sacrifice était pardonné ? Parce que Dieu avait dit, il lui sera pardonné. La paix de son âme, quant à ce péché particulier, reposait sur le témoignage du Dieu d'Israël et sur le sang de la victime. De même, maintenant, la paix du croyant relativement à tout péché repose sur l'autorité de la parole de Dieu et sur le précieux sang de Christ. Si un juif avait péché et négligé d'offrir son sacrifice pour le péché, il devait être retranché d'entre ses peuples. Mais quand il prenait sa place comme pécheur, quand il posait la main sur la tête d'une victime pour le péché, alors la victime était retranchée à sa place, et il était délivré selon la valeur du sacrifice. La victime était traitée comme celui qui l'offrait méritait de l'être, et par conséquent, si ce dernier n'avait pas cru que son péché lui était pardonné, il aurait fait Dieu menteur et traité d'inutile le sang du sacrifice divinement ordonné. Et si cela était vrai pour celui qui ne pouvait se reposer que sur le sang d'un bouc, combien plus cela s'applique-t-il à celui qui peut se reposer sur le précieux sang de Christ ? Le croyant voit en Christ celui qui a été jugé pour tous ses péchés et en a porté tout le poids. Il voit en lui celui qui, s'étant rendu responsable de ses péchés, ne pourrait être là où il est maintenant si toute la question du péché n'avait pas été réglée selon les exigences de la justice de Dieu. Sur la croix, les péchés du croyant ont été si complètement imputés à Christ que toute question de culpabilité, de jugement ou de colère est éternellement mise de côté. Voir 2 Corinthiens 5, verset 21. Tout a été réglé sur le bois maudit, entre la justice divine et la victime sans tache. Et maintenant, le croyant est aussi absolument identifié avec Christ sur le trône que Christ fut identifié avec lui sur la croix. La justice n'a plus aucun grief à élever contre le croyant, parce qu'elle n'a aucun grief à élever contre Christ. Si une accusation pouvait être valable contre le croyant, ce serait mettre en question la réalité de l'identification de Christ avec lui sur la croix et la perfection de l'œuvre de Christ en sa faveur. Lorsqu'un homme retournait chez lui après avoir offert son sacrifice pour le péché, si quelqu'un l'avait accusé du péché pour lequel sa victime avait été immolée, quelle aurait été sa réponse ? Simplement celle-ci. Le péché a été enlevé par le sang de la victime, et l'Éternel a dit, « Il lui sera pardonné. » Christ, mort et ressuscité. Lorsque l'œil de la foi se repose sur Christ comme sacrifice pour le péché, il voit en lui celui qui, ayant pris une vie humaine parfaite, a laissé cette vie sur la croix parce que le péché y avait été attaché par imputation. Mais il voit aussi en lui celui qui, ayant en lui-même la puissance de la vie divine et éternelle, sorti du tombeau, et qui maintenant communique sa vie de résurrection, sa vie divine et éternelle, à tous ceux qui croient en son nom. Le péché est ôté, parce que la vie à laquelle il était attaché a été ôtée. Et maintenant, au lieu de la vie à laquelle le péché était attaché, tous les vrais croyants possèdent la vie à laquelle est liée la justice. La question du péché ne peut jamais être soulevée relativement à la vie de Christ ressuscité, et c'est la vie que possèdent les croyants. En dehors d'elle, tout est mort, parce que tout est sous la puissance du péché. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui a la vie a aussi la justice. Les deux choses sont inséparables, parce que Christ est l'une et l'autre. Si le jugement et la mort de Christ ont été des réalités, alors la vie et la justice du croyant sont des réalités. Si le péché imputé a été une réalité pour Christ, la justice imputée est une réalité pour le croyant. L'un est aussi réel que l'autre. S'il n'en était pas ainsi, Christ serait mort en vain. Le vrai et inébranlable fondement de la paix est que les exigences de la nature divine quant au péché ont été parfaitement satisfaites. La mort de Jésus les a toutes satisfaites, satisfaites pour toujours. Qu'est-ce qui prouve cela? Le grand fait de la résurrection. Un Christ ressuscité proclame l'entière délivrance du croyant, son parfait acquittement de toute charge possible. Il a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. Romains 4, verset 25. Un chrétien qui ne sait pas que son péché est ôté, et ôté pour toujours, fait peu de cas du sang de Christ, son divin sacrifice pour le péché. Il nie, ou il oublie, qu'il y a eu la parfaite présentation de ce sang devant Dieu. Et maintenant, avant de quitter le point fondamental qui vient de nous occuper, je voudrais faire un appel au cœur et à la conscience de mon lecteur. Je vous le demande, cher ami, avez-vous été amené à vous reposer sur ce saint et heureux fondement? Savez-vous que la question de votre péché et de vos péchés a été pour toujours résolue? Avez-vous posé votre main par la foi sur la tête de la victime pour le péché? La justice divine a-t-elle encore quelque chose contre vous? Êtes-vous délivré des tourments d'une conscience coupable? Ne vous donnez pas de repos, je vous en prie, jusqu'à ce que vous puissiez faire une joyeuse réponse à ces questions. Soyez assurés que c'est l'heureux privilège du plus faible croyant de se réjouir d'une pleine et éternelle rémission de ses péchés en raison d'une parfaite expiation. C'est la seule base du culte chrétien. La parfaite assurance que le péché est ôté produit non pas un esprit de confiance en soi-même, mais un esprit de louange, d'action de grâce et d'adoration. Elle produit non un esprit de satisfaction personnelle, mais de satisfaction en Christ. Elle nous conduit non à faire peu de cas du péché, mais à faire beaucoup de cas de la grâce qu'il a parfaitement pardonnée et du sang qu'il a parfaitement annulé. On ne peut contempler la croix, voir la place que Christ a prise, méditer sur les souffrances qu'il y a endurées, penser à ces trois terribles heures de ténèbres, et en même temps regarder le péché comme quelque chose de peu d'importance. Cette contemplation produit deux résultats, l'horreur du péché sous toutes ses formes et un sincère amour pour Christ. Sortons vers lui, hors du camp. Considérons maintenant ce qui était fait de la chair ou du corps de la victime. Tout le taureau, il l'emportera hors du camp, dans un lieu net, là où l'on verse les cendres, et il le brûlera sur du bois au feu. Chapitre 4, verset 12. Cet acte doit être considéré sous deux aspects. D'abord comme exprimant la place que le Seigneur Jésus prit pour nous en portant le péché, en second lieu comme exprimant la place où il fut chassé par un monde qu'il avait rejeté. C'est sur ce dernier point que je voudrais attirer ici l'attention de mon lecteur. La leçon que l'apôtre tire en Hébreux 13 du fait que Christ a souffert hors de la porte est profondément pratique. Ainsi donc sortons vers lui hors du camp, portant son opprobre. Verset 13. Si les souffrances de Christ nous ont assuré une entrée au ciel, l'endroit où il a souffert exprime notre réjection de la terre. Sa mort nous a procuré une cité en haut. Le lieu où il est mort nous prive d'une cité ici-bas. Il a souffert hors de la porte, et cela mis de côté Jérusalem. Il n'y a plus maintenant de lieu consacré sur la terre. Christ a pris sa place comme victime hors des limites de la religion de ce monde et de tout ce qui lui appartient. Le monde l'a haï et rejeté. C'est pour cela qu'il est dit « sortons ». C'est la devise concernant tout ce que les hommes établissent ici-bas sous forme de camp. S'ils érigent une sainte cité, vous devez chercher un Christ rejeté hors de la porte. S'ils forment un camp religieux de quelque nom qu'on puisse l'appeler, vous devez en sortir afin de trouver un Christ rejeté. Lorsque les hommes forment un camp, lorsqu'ils se rallient autour d'une bannière ayant pour armoirie quelque dogme vrai et important ou quelque excellente institution, lorsqu'ils peuvent en appeler à un credo orthodoxe, à un corps de doctrine clair et bien argumenté, ou encore à un rituel splendide, il faut beaucoup d'énergie et de décision spirituelle pour discerner la force réelle et la vraie application de ces mots « sortons » et pour s'y conformer. Il est parfaitement certain que l'atmosphère d'un camp, quel qu'en soit le fondement ou la bannière, est contraire à la communion personnelle avec un Christ rejeté. Or, aucun prétendu avantage religieux ne contrebalancera jamais la perte de cette communion. C'est la tendance de nos cœurs de tomber dans des formes froides et stéréotypées. Il en a toujours été ainsi dans l'Église professante. Ces formes peuvent avoir été vraiment puissantes à l'origine. Elles peuvent avoir résulté d'interventions positives de l'Esprit de Dieu. Le danger est de stéréotyper la forme quand l'esprit et la force sont disparus. C'est, en principe, établir un camp. Le système juif pouvait se vanter d'une origine divine. Un juif pouvait montrer avec orgueil le temple, avec ses ornements et ses ustensiles, son imposant système de culte, sa sacrificature, ses sacrifices, et prouver que tout avait été ordonné par le Dieu d'Israël. Quel est le système de l'Antiquité, du Moyen-Âge ou des temps modernes qui puisse mettre en avant de si hautes prétentions? Et cependant, l'ordre était d'en sortir. C'est un sujet des plus sérieux. Il nous concerne tous, parce que nous sommes tous enclins à glisser de la communion avec Christ vers une routine morte. De là la force pratique de ces mots. Ainsi donc, sortons vers lui. Ce n'est pas « sortons d'un système pour entrer dans un autre ». Laissons certaines opinions pour en embrasser d'autres. Quittons telle société pour nous joindre à une autre. Non. Mais sortons de tout ce qui peut s'appeler un camp vers lui, qui a souffert hors de la porte. Le Seigneur Jésus est tout aussi hors de la porte maintenant que quand il a souffert il y a plus de 19 siècles. Par qui fut-il mis hors de la porte? Par le monde religieux d'alors. Et le monde religieux d'alors était, en esprit et en principe, le monde religieux d'aujourd'hui. Le monde est toujours le monde. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le monde s'est revêtu du manteau du christianisme, mais c'est seulement pour que sa haine contre Christ puisse se développer en forme plus dangereuse. Ne nous séduisons pas nous-mêmes. Si nous voulons marcher avec un Christ rejeté, il faut que nous soyons un peuple rejeté. Si notre maître a souffert hors de la porte, nous ne pouvons nous attendre à régner en deçà de la porte. Si nous suivons ses pas, où nous conduiront-ils? Assurément pas aux positions élevées de ce monde sans Dieu et sans Christ. Il est un Christ méprisé, un Christ rejeté, un Christ hors du camp. Sortons donc vers lui, cher lecteur chrétien, en portant son opprobre. Ne recherchons pas la faveur de ce monde, vu qu'il a crucifié et qu'il hait toujours le bien-aimé auquel nous devons tout. Soyons fidèles à un Seigneur absent. Vivons pour celui qui est mort pour nous. Nous avons la paix de nos consciences par son sang. Que les affections de nos cœurs s'attachent à sa personne. Que notre séparation du présent siècle mauvais ne soit pas seulement extérieure, mais que ce soit une séparation de cœur, parce que l'objet de notre cœur ne s'y trouve pas. Que le Seigneur nous préserve de cet égoïsme prudent, si commun aujourd'hui, qui ne voudrait pas être sans religion, mais refuse de prendre sa place avec un Christ rejeté. Ce qu'il nous faut, c'est un profond dévouement à la personne du Fils de Dieu, une entière consécration de nous-mêmes, corps, âme et esprit à son service, et un ardent désir de sa glorieuse apparition. Le sacrifice pour le délit. Chapitre 5, versets 14 à 26. La sainteté de Dieu. Au verset 14 du chapitre 5, une nouvelle division du sujet est marquée par les mots Et l'Éternel parla à Moïse, disant, voir chapitre 1, verset 1, chapitre 4, verset 1, chapitre 5, verset 20, chapitre 6, verset 1, etc. Depuis ce verset 14, il est question des sacrifices pour le délit. Deux cas sont envisagés. Il pouvait s'agir de fautes contre Dieu ou de fautes contre l'homme. Si quelqu'un a commis une infidélité et un péché par erreur dans les choses saintes de l'Éternel, il amènera son sacrifice pour le délit à l'Éternel, un bélier sans défaut, pris du menu bétail selon ton estimation en cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Chapitre 5, verset 15. Nous avons ici le cas d'un tort commis relativement aux choses saintes qui appartenaient à l'Éternel. Et quoiqu'il ait été commis par erreur, il ne pouvait être passé sous silence. Dieu peut pardonner toute espèce d'offense, mais il ne saurait fermer les yeux sur la transgression du plus petit commandement. Sa grâce est parfaite, et par conséquent il peut tout pardonner. Sa sainteté est parfaite, et par conséquent il ne peut rien laisser passer. Il ne peut pas tolérer l'iniquité, mais il peut l'effacer. Et cela selon la perfection de sa grâce et selon les parfaites exigences de sa sainteté. C'est une grave erreur de croire que, pourvu qu'un homme suive les directions de sa conscience, il est dans le bon chemin et en sûreté. La paix qui repose sur une telle base s'effondrera quand la lumière du trône divin resplendira sur la conscience. Dieu ne saurait abaisser ses droits à un semblable niveau. La balance du sanctuaire est réglée d'après une échelle bien différente de celle que peut fournir la conscience la plus délicate. Nous devons avoir une juste perception de ce qu'est réellement la sainteté de Dieu, puis une idée claire du fondement de notre paix. Qu'il s'agisse de ma position ou de ma conduite, de ma nature ou de mes actions, Dieu seul peut être juge de ce qui lui convient et de ce qui convient à sa sainte présence. L'ignorance humaine peut-elle présenter des excuses quand il s'agit des exigences divines ? Certes pas. Voilà qu'un tort a été commis à l'égard des choses saintes de l'Éternel, mais la conscience de l'homme n'en a pas pris connaissance. Ne s'en inquiétera-t-on donc plus ? Peut-on disposer si légèrement de ce qui appartient à Dieu ? Non, assurément. Cela serait subversif de toute relation avec Dieu. Notre paix a été assurée sur le fondement de notre entière justification et du parfait établissement de la sainteté de Dieu. Plus notre compréhension de cette sainteté est élevée, plus profonde et plus assurée sera notre paix. C'est une vérité des plus précieuses. L'homme irrégénéré ne peut jamais se réjouir de la sainteté divine. S'il ne peut l'ignorer entièrement, il cherche à la rabaisser autant que possible. Il se consolera peut-être par la pensée que Dieu est bon, que Dieu est miséricordieux, que Dieu est patient. Mais vous ne le verrez jamais se réjouir en pensant que Dieu est saint. Toutes ces pensées sur la bonté de Dieu, sa grâce et sa miséricorde sont profanes. Il voudrait trouver, dans ses divers attributs, une excuse pour continuer à vivre dans le péché. L'homme régénéré, au contraire, est rempli de joie en pensant à la sainteté de Dieu. Il en voit l'entière expression dans la croix du Seigneur Jésus. C'est cette sainteté qui a posé le fondement de sa paix, et non seulement cela, mais il en est rendu participant, et il en fait ses délices, tout en haïssant le péché d'une parfaite haine. Les instincts de la nature divine aspirent à la sainteté. Il serait impossible de jouir d'une vraie paix et d'une entière liberté de cœur si l'on ne savait pas que toutes les exigences liées à la sainteté de Dieu ont été parfaitement satisfaites par Christ à la croix. Il s'élèverait toujours dans le cœur le sentiment pénible que ces exigences ont été méconnues et offensées par nos nombreux manquements. En raison de nos infirmités, les meilleurs de nos services peuvent être mélangés de culpabilité dans les choses saintes de l'Éternel. Il peut s'y trouver ce qui ne doit pas se faire. Que de fois nos heures de culte public ou de méditation personnelle sont troublées par la sécheresse et la distraction. C'est pour cela que nous avons besoin de l'assurance que nos offenses ont toutes été effacées par le précieux sang de Christ. Nous trouvons ainsi dans le Seigneur Jésus celui qui est descendu jusqu'à la mesure pleine et entière de nos nécessités. Nous trouvons en lui la réponse parfaite à tous les besoins d'une conscience coupable et à toutes les exigences de la sainteté infinie de Dieu relativement à tous nos péchés et à toutes nos offenses. De sorte que le croyant peut se tenir, avec une conscience tranquille et un cœur soulagé, dans la pleine lumière de la sainteté de Dieu, bien que ses yeux soient trop purs pour voir l'iniquité ou pour regarder le péché. Restitution et un cinquième par-dessus. Et ce en quoi il a péché, en prenant de la chose sainte, il le restituera et y ajoutera par-dessus un cinquième et le donnera au sacrificateur, et le sacrificateur fera propitiation pour lui avec le bélier du sacrifice pour le délit et lui sera pardonné. Chapitre 5, verset 16. Il y a un caractère du vrai sacrifice pour le délit qui, je le crains, n'est que bien peu apprécié. Quand nous pensons à toutes les fautes et à toutes les offenses que nous avons commises contre le Seigneur, quand nous nous rappelons combien Dieu a été lésé dans ses droits par ce monde méchant, avec quel intérêt ne pouvons-nous pas contempler l'œuvre de la croix comme ce en quoi Dieu a non seulement recouvré ce qui était perdu, mais a trouvé un gain réel. Il a gagné davantage par la rédemption qu'il n'avait perdu par la chute. Il recueille une plus riche moisson de gloire, d'honneur et de louange dans les champs de la rédemption qu'il n'aurait jamais pu le faire dans ceux de la création. Les anges pouvaient entonner un chant de louange bien plus magnifique autour de la tombe vide de Jésus qu'ils ne le firent jamais en contemplant l'œuvre achevée du Créateur. Non seulement le péché a été parfaitement expié, mais un avantage éternel a été gagné par l'œuvre de la croix. C'est une vérité merveilleuse. Dieu gagne quelque chose par l'œuvre du calvaire. Béni soit le nom de Jésus pour cela. La même loi, par rapport au cinquième, s'appliquait au cas d'une offense contre un homme, car nous lisons « Si quelqu'un a péché et a commis une infidélité envers l'Éternel, et a menti à son prochain pour une chose qu'on lui a confiée, ou qu'on a déposée entre ses mains, ou qu'il a volée, ou extorquée à son prochain, ou s'il a trouvé une chose perdue, et qu'il ment à ce sujet, et qu'il jure en mentant à l'égard de l'une de toutes les choses qu'un homme fait de manière à pécher en les faisant, alors, s'il a péché et qu'il soit coupable, il arrivera qu'il rendra l'objet qu'il a volé, ou la chose qu'il a extorquée, ou le dépôt qui lui a été confié, ou la chose perdue qu'il a trouvée, ou tout ce à l'égard de quoi il a juré en mentant, et il restituera le principal et ajoutera un cinquième par-dessus. Il le donnera à celui à qui cela appartient le jour de son sacrifice pour le délit. Chapitre 5, versets 20 à 24. Un beau principe est renfermé dans l'expression « envers l'Éternel ». Quoique l'affaire en question soit un tort fait au prochain, cependant l'Éternel le regardait comme une offense contre lui-même. Tout doit être considéré en rapport avec l'Éternel, peu importe qui cela concerne directement. L'Éternel doit avoir la première place. Ainsi, lorsque la conscience de David a été atteinte relativement à ce qu'il avait fait à Uri, il s'écria « J'ai péché contre l'Éternel ». 2 Samuel 12, verset 13. Mais ce passage du Lévitique nous enseigne que l'homme, de même que Dieu, tire un avantage positif de la croix. En contemplant cette croix, le croyant peut dire « Malgré tous les torts que l'on m'a faits, toutes les fautes que l'on a commises envers moi, quoique j'ai été trompé et que l'on m'ait fait du mal, je retire un profit de la croix. Non seulement j'ai regagné tout ce qui était perdu, mais bien plus encore. » Que nous pensions à la personne offensée ou à l'offenseur, nous sommes également frappés des résultats glorieux de la rédemption. Des résultats éminemment pratiques découlent de cet évangile qui remplit l'âme de l'assurance que toutes les offenses sont pardonnées et que la racine d'où sont sorties ces offenses a été jugée. En effet, l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux fait aller un homme au milieu d'un monde qui a été témoin de ses péchés et de ses injustices. Il le renvoie vers tous ceux qui ont souffert de sa part. Il le renvoie armé de grâce, non seulement pour réparer ses torts, mais encore pour aimer ses ennemis, faire du bien à ceux qui le haïssent et prier pour ceux qui lui font du tort. Voilà ce qu'est la précieuse grâce de Dieu, agissant en accord avec notre grand sacrifice pour le délit. Voilà quels en sont les fruits riches et rafraîchissants. Quelle réponse triomphante pour celui qui dirait « Demeurons dans le péché afin que la grâce abonde ». Non seulement la grâce coupe le péché à la racine, mais elle transforme le pécheur. Elle en fait une bénédiction, un canal de miséricorde divine. D'un émissaire de Satan, elle fait un messager de Dieu. D'un enfant des ténèbres, un fils de la lumière. D'un égoïste chercheur de plaisir, un homme qui renonce à lui-même et qui aime Dieu. D'un esclave de ses convoitises charnelles, un zélé serviteur de Christ. D'un avare au cœur froid, un ministre des besoins de ses semblables. Ne pensons donc pas que d'après l'Évangile, nous puissions vivre comme il nous plaît. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses propres mains ce qui est bon, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Éphésiens 4, verset 28. N'oublions pas que, tandis que le sang du sacrifice pour le délit purifie la conscience, la loi de ce sacrifice renvoie le coupable auprès de celui à qui il a fait tort, avec le principal et le cinquième par-dessus. Noble témoignage rendu à la grâce et à la justice du Dieu d'Israël. Bel emblème des résultats de ce merveilleux plan de la rédemption par lequel le coupable est pardonné et l'offensé devient le gagnant. Si la conscience a été mise en paix par le sang de la croix, relativement au droit de Dieu, il faut que la conduite aussi soit réglée par la sainteté de la croix, relativement au droit de la justice pratique. Ces choses ne doivent jamais être séparées. Hélas, il est facile de faire profession des principes de la grâce et d'en renier complètement la pratique et la force. Il est facile de dire qu'on se repose sur le sang du sacrifice pour le délit, tout en retenant le principal et le cinquième. Cela est grave. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. 1 Jean 3, verset 10. On déshonore la pure grâce de l'Évangile en supposant qu'un homme puisse appartenir à Dieu, tandis que sa conduite et son caractère ne portent pas les traces de la sainteté pratique. Dieu connaît les cœurs, sans doute, mais il nous a donné, dans sa sainte parole, des signes auxquels nous pouvons discerner ceux qui lui appartiennent. Nous n'avons pas le droit de supposer qu'un méchant appartienne à Dieu. Par ceci sont rendus manifestes les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et celui qui n'aime pas son frère. 1 Jean 3, verset 10. Il est bon de se souvenir de cela dans ce siècle de relâchement. Soyons remplis du fruit de la justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Philippiens 1, verset 11. Faute contre Dieu et faute contre l'homme. Venons-en maintenant à la comparaison des sacrifices pour le délit dans les choses saintes de l'Éternel et ceux qui avaient rapport à des torts faits à des personnes. Deux points demandent notre attention. D'abord l'expression « si quelqu'un a péché par erreur » qui se trouve dans le premier cas est omise dans le second. La raison en est évidente. Les droits qui sont en connexion avec les choses saintes de l'Éternel sont infiniment au-dessus de la plus grande sensibilité humaine. Il se peut que ces droits soient négligés sans que l'on s'en aperçoive. Combien de fois n'avons-nous pas offensé Dieu dans ces saintes choses sans en avoir pris note dans notre conscience, sans même avoir eu la capacité de nous en apercevoir? Il n'en est pas de même quand il s'agit des droits de l'homme. La conscience humaine peut prendre connaissance du tort que l'œil humain peut voir et que le cœur humain peut sentir. Un homme, par ignorance des lois qui gouvernaient le sanctuaire de jadis, pouvait commettre une offense contre ces lois sans s'en apercevoir, jusqu'à ce qu'une plus grande lumière éclaire sa conscience. Mais un homme ne pouvait par erreur dire un mensonge, jurer faussement, commettre un acte de violence, tromper son prochain, ou trouver une chose perdue et le nier. Tous ces actes étaient évidents et palpables. C'est pour cela que l'expression « par erreur » est introduite relativement aux choses saintes de l'Éternel et omise pour les affaires humaines. Quelle bénédiction de savoir que le précieux sang de Christ a tranché toutes les questions, soit envers Dieu, soit envers les hommes, nos péchés d'ignorance et nos péchés connus. C'est ici que le fondement inébranlable de la paix du croyant. La croix a divinement répondu à tout. Ensuite, quand il est question d'offense dans les choses saintes de l'Éternel, le sacrifice est d'abord mentionné, puis le principal et le cinquième. Cet ordre est renversé quand il s'agit des torts faits à l'homme. Comparez les versets 15 et 16 avec les versets 23 à 25. La raison en est également évidente. Quand on avait porté atteinte au droit divin, le sang de l'expiation devenait l'affaire principale. Tandis que, quand c'était les droits humains qui étaient lésés, la restitution prenait naturellement la première place dans l'esprit. Mais comme les relations de l'âme avec Dieu étaient impliquées dans ce cas aussi bien que dans le premier, le sacrifice y est aussi introduit, quoiqu'il soit au dernier rang. Si je fais tort à mon prochain, ce tort interrompt ma communion avec Dieu, et cette communion doit être rétablie sur la base du sacrifice. La seule restitution ne suffit pas. Elle pourrait satisfaire l'offensé, mais elle ne saurait rétablir la communion avec Dieu. Je puis rendre le principal et y ajouter le cinquième 10 000 fois par-dessus, et pourtant ne pas être délivré de mon péché. Cependant, s'il est question d'un tort fait à mon prochain, la restitution doit précéder. Si donc tu offres ton don à l'autel, et que là il te souvienne que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton don devant l'autel, et va d'abord, réconcilie-toi avec ton frère, et alors viens et offre ton don. Matthieu 5, versets 23 et 24. En comparant Matthieu 5, versets 23 et 24, avec Matthieu 18, versets 21 et 22, nous apprenons de quelle manière remarquable les torts et les injustices devaient se régler entre deux frères. L'offenseur est renvoyé de l'autel afin qu'il aille s'arranger avec l'offensé. Car il ne peut y avoir de communion avec le Père tant que mon frère a quelque chose contre moi. Puis, remarquez de quelle belle manière l'offensé est enseigné à recevoir l'offenseur. Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Tel est le mode divin de régler toutes les questions entre des frères. Vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres, si l'un a un sujet de plainte contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Colossiens 3, verset 13. L'ordre divin prescrit dans l'offrande pour le délit a beaucoup plus d'importance qu'il ne le semble à première vue. Les devoirs qui résultent de nos rapports avec les hommes ne doivent pas être négligés. Ils doivent toujours occuper une place convenable dans le cœur. C'est ce que nous apprend clairement le sacrifice pour le délit. Lorsqu'un Israélite avait, par quelque acte coupable, troublé ses rapports avec l'Éternel, l'ordre de conduite était sacrifice, puis restitution. Quand il avait, par quelque acte coupable, troublé ses rapports avec son prochain, l'ordre de conduite était restitution, puis sacrifice. Tous les détails ont leur signification, pourvu que nous laissions le Saint-Esprit les expliquer à nos cœurs.